Qu'y a-t-il, Brunet? Pourquoi s'arrête-t-on? Où sommes-nous? À Quinsac? Il n'est point prévu. Que veulent ces manants? Oh, une bénédiction. Qu'on n'arrête point mon cortège pour cela, tu sais bien que je bénis en marchant. In nomine Patris, in sancti. Allez, bonnes gens, vous êtes bénis, allez en paix. S'il fallait s'arrêter chaque fois qu'on me demande une bénédiction, nous serions à Metz dans 6 mois. Donc, vous disais-je, en septembre de 1349, Madame Bonne meurt, laissant veuf l'héritier du trône. En octobre, ce fut le tour de la reine de Navarre, Madame Jeanne, qu'on appelait naguère Jeanne la Petite, la fille de Marguerite de Bourgogne et peut-être, ou peut-être pas, de Louis Hutin, celle qu'on avait écartée de la succession de France en faisant peser sur elle la présomption de bâtardise. Eh oui, l'enfant de la tour de Nesle, emportée par la peste. Son trépas, à elle non plus, ne fut pas salué par de très longs sanglots. Elle était veuve depuis 6 ans de son cousin, Monseigneur Philippe d'Évreux, tué quelque part en Castille, dans un combat contre les Maures. La couronne de Navarre leur avait été abandonnée par Philippe VI lors de son avènement, pour prévenir les revendications qu'ils auraient pu émettre sur celle de France. Cela fit partie de toutes les tractations qui assurèrent le trône aux Valois. Je n'ai jamais approuvé cet arrangement navarrais, qui n'était bon ni en droit ni en fait. Mais je n'avais pas encore mon mot à dire. Je venais tout juste d'être nommé évêque d'Auxerre. Et puis, même l'aurais-je dit, en droit, cela ne tenait point. En droit, cela ne tenait point. La Navarre venait de la mère de Louis Hutin. Si Jeanne la Petite n'était pas la fille de celui-ci, mais d'un quelconque écuyer, elle n'avait pas plus de titre sur la Navarre que sur la France. Donc, si on lui reconnaissait la couronne de l'une, on étayait ipso facto ses droits sur l'autre, pour elle et pour ses héritiers. On avouait un peu trop qu'on l'avait écartée du trône non tellement pour sa présumée bâtardise, mais parce qu'elle était femme, et grâce à l'artifice d'une loi des mâles inventée. Quant aux raisons de fait, jamais le roi Philippe le Bel n'aurait consenti, pour quelque raison que ce fût, à amputer ainsi le royaume de ce qu'il y avait ajouté. On n'assure pas son trône en lui sciant un pied. Jeanne et Philippe de Navarre s'étaient tenus fort calmes, elle parce que la chemise de sa mère lui collait un peu trop à la peau, lui parce qu'il était comme son père, Louis d'Évreux, de nature digne et réfléchie. Ils semblaient contents avec leur riche comté normand et leur petit royaume pyrénéen. Les choses allaient changer avec leur fils Charles, jeune homme fort remuant pour ses 18 ans, qui jetait des regards pleins de vindicte sur le passé de sa famille, pleins d'ambition sur son propre avenir. Si ma grand-mère n'avait pas été si chaude putain, si ma mère était née homme, je serais roi de France à présent. Je l'ai entendu dire cela de mes oreilles. Il convenait donc de ménager la Navarre, qui, par sa situation au midi du royaume, prenait d'autant plus d'importance que les Anglais à présent tenaient toute l'Aquitaine. Alors, comme toujours en pareil cas, arrangeons un mariage. Le duc Jean se fut bien dispensé de contracter une nouvelle union, mais il était promis à être roi, et l'image royale voulait qu'il eût épouse à son côté, surtout dans son cas. Une épouse empêcherait qu'il parût marcher trop ouvertement au bras de Monsieur d'Espagne. D'autre part, comment mieux flatter le remuant Charles d'Évreux Navarre, et comment mieux lui lier les mains, qu'en choisissant la future reine de France parmi ses sœurs? La plus âgée, Blanche, avait 16 ans, une beauté et beaucoup de grâce d'esprit. Le projet fut fort avancé, les dispenses demandées au pape et le mariage quasiment annoncé, encore qu'on se demandât qui serait vivant la semaine suivante, dans l'horrible période qu'on traversait. Car la mort continuait de frapper à toutes les portes. Au début de décembre, la peste enleva la reine de France elle-même, Madame Jeanne de Bourgogne, la boiteuse, la mauvaise reine. Pour celle-là, ce fut tout juste si la bienséance permit de contenir les cris de joie, et si le peuple ne se mit pas à danser dans les rues. Elle était haïe, votre père a dû vous le dire. Elle volait le sceau de son mari pour faire jeter Jean en prison. Elle apprêtait des bains empoisonnés pour les autres qui lui déplaisaient. Il s'en fallut de peu qu'elle ne fît de la sorte périr un évêque. Le roi parfois la rouait à coups de torche, mais il ne parvint pas à l'amender. Je me méfiais fort de cette reine-là. Sa nature soupçonneuse peuplait la cour d'ennemis imaginaires. Elle était coléreuse, menteuse, odieuse, elle était criminelle. Sa mort parut un effet tardif de la justice céleste. D'ailleurs, aussitôt après, le fléau commença de régresser, comme si cette grande hécatombe, venue de si loin, n'avait eu d'autre but que d'atteindre enfin cette harpie. De tous les hommes de France, celui qui en éprouva le plus grand soulagement, ce fut le roi lui-même. 1 mois moins 1 jour après, dans la froidure de janvier, il se remaria. Même veuf d'une femme unanimement détestée, c'était faire bien peu de cas des délais de convenance. Mais le pire n'était point dans la hâte. Avec qui convolait-il ? Avec la fiancée de son fils. Avec Blanche de Navarre, la jeunette, dont il était tombé fou en la voyant paraître à la cour. Si complaisant qu'il soit pour la gaillardise, les Français n'aiment guère chez le souverain les égarements de cette sorte. Philippe VI avait 40 ans de plus que la beauté qu'il soufflait fort brutalement à son héritier. Et il ne pouvait point invoquer, comme pourtant d'union princière des assortis, l'intérêt supérieur des empires. Il enchâssait une pierre de scandale dans sa couronne, cependant qu'il infligeait à son successeur la meurtrissure du ridicule. Mariage célébré à la sauvette du côté de Saint-Germain-en-Laye. Jean de Normandie, naturellement, n'y assistait pas. Il n'avait jamais eu grande affection pour son père, qui d'ailleurs lui en rendait peu. Maintenant, il lui vouait de la haine. Et l'héritier, un mois plus tard, se remariait à son tour. Il avait hâte d'effacer l'outrage. Il fit l'enchanté de s'accommoder de Madame de Boulogne, veuve du duc de Bourgogne. Ce fut mon vénérable frère, le cardinal Guy de Boulogne, qui arrangea cette union pour l'avantage de sa famille et le sien propre. Madame de Boulogne était du point de vue de la fortune un fort bon parti, ce qui aurait dû assainir les affaires du prince, déjà dépensier comme personne, mais ne servit en fait qu'à l'encourager au gaspillage.